aime beauté. Et c'est vrai qu'il y a souvent des chants que nous, on connaît, hein. Comme Dieu Tout-Puissant, entre tes mains j'abandonne. Ils chantent en lingala, mais moi, je le chante en français, hein. Mais bon, ce chant-là, je ne le connaissais pas. Bien, c'est bien. Continuez comme cela. Comme ça, quand vous serez dans le ciel, il n'y aura pas, eh bien, de surprise. Hein? Vous ne serez pas dépaysés. Alors, pensons aussi, c'est vrai, à nos bien-aimés. Et c'est vrai que, depuis un certain temps, je vous ai fait part, lorsque je vous visitais, peut-être même Eric, c'est que, il y a quelques années, la salle d'Alkirch a été fermée. Il y a eu, bien sûr, le Covid. Et on a continué de prier. C'est vrai que certains enfants de Dieu se sont dispersés. Mais aujourd'hui, eh bien, il y a le premier culte à Alkirch. Alors prions. Bien sûr, ce ne sera que deux fois par mois pour commencer. Il y a des grandes difficultés sur Alkirch. La mairie, eh bien, a donné son veto, ses niettes. Mais les frères, on ne s'est pas découragés. On a cherché. Et c'est au Roggenberg, c'est la salle de sport du Roggenberg. Alors aujourd'hui, il y a le culte et je crois que c'est le 19, dont là, eh bien, je serai le prédicateur. Alors prions aussi, afin que là aussi, eh bien, l'œuvre de Dieu puisse repartir sur des bases nouvelles et que la ville d'Alkirch puisse connaître ce réveil puissant. C'est vrai que le diable, eh bien, est celui qui veut tout freiner, tout arrêter. Et ça nous pose aussi des questions à chaque enfant de Dieu. Et ce matin, le thème de la pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur, est-ce qu'on est bientôt arrivé? Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Avec tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, je veux aussi transmettre les salutations aux visiteurs, s'il y a des visiteurs, que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il des visiteurs qui se lèvent? Alors vous êtes tous, eh bien, de la région de Saint-Louis et des alentours. Gloire à Dieu! C'est vrai, est-ce qu'on est bientôt arrivé? Alors, plusieurs points. La première lecture que nous ferons, c'est dans l'évangile de Marc. Mais il y aura seulement un point très important qu'on voudrait voir. Marc au chapitre 13, on ne va pas lire tout ce chapitre 13 parce que c'est vrai, il y a 37 versets. Mais chez vous, bien, vous le lirez, vous méditerez. Alors, Marc chapitre 13, verset 1er. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre !» Et quelle construction ? Jésus les répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et à quel signe connaîtrons-nous que toutes ces choses vont s'accomplir. Dis-nous. Hein? Nous, on veut le savoir. » Et bien sûr, alors Jésus leur dira, prenez garde que personne ne vous séduise, etc., etc. Mais nous allons maintenant lire dans l'évangile de Matthieu. Dis-nous. Nous, on veut être au clair. Et c'est vrai que le Seigneur, lui, ne cache pas. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. C'est toujours la même chose. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Premier point, dis-nous. Deuxième point, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Voyons là une progression. Troisième lecture, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, partir du verset 1er, nous pouvons lire. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtront-on que ces choses vont arriver? Alors bien sûr, Jésus dira, prenez garde, etc. Ils leur demandèrent, maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtront-on que ces choses vont arriver? Rabbi, est-ce que on est et on va voir le royaume de Dieu? Quand allons-nous voir le royaume de Dieu? Les disciples, bien sûr, vont interroger leur maître. Et j'ai imaginé, n'est-ce pas, cette image des enfants avec les parents qui partent en voyage. Et c'est vrai que les enfants, au bout d'un certain temps, dans la voiture, vont se plaindre auprès des parents que le trajet est long, etc. Et ils diront aux parents, eh bien, quand allons-nous arriver? On est pressé d'arriver à destination. Mais bien sûr, la maman va dire, mais mes chéris, on arrive bientôt. Mais mon amour, on arrive bientôt, alors regarde le paysage, regarde les vaches dans le pré, regarde les belles montagnes ensoleillées, on va arriver. Il y a encore, eh bien, quelques kilomètres à faire, on va arriver. Prends patience. C'est ça que les parents vont répondre à leurs enfants pour essayer de détourner leur impatience. Eh bien, Jésus, frères et sœurs, répond de la même manière. Il répond de la même manière. Et c'est vrai qu'en venant au culte, que ce soit sur Mulhouse, Saint-Louis ou Alkirch ou autre part, eh bien, je vois souvent les dimanches matins des gens que je croise qui font eh bien leur footing. Alors bien sûr, pour certains, ça sera la préparation d'un marathon. D'autres, eh bien, ça sera pour garder la ligne. D'autres encore, eh bien, pour se désintoxiquer. Mais ils courent. C'est vrai que, étant jeune, j'ai pris de l'âge, hein, bien que je suis toujours jeune, je préfère, moi, le sprint qu'un marathon. Pourquoi? Parce que le sprint, on voit déjà la ligne d'arrivée. Mais un marathon, c'est plus long, il y a des hauts, il y a des bas, ça monte, ça descend. Hein. Un marathon, c'est vrai que pour moi, me paraît une montagne. Et j'ai le sentiment que la ligne d'arrivée est très lointaine pour y arriver. Et en roulant, eh bien, j'ai réfléchi qu'il y avait là un lien avec la foi, avec la persévérance, avec eh bien, le don de sa personne. Parce que c'est vrai que pour eh bien, ces personnes qui, le dimanche matin, au lieu de faire la grasse matinée, se lèvent pour aller courir, il faut, n'est-ce pas, eh bien, qu'ils en veulent. Il faut que ces personnes désirent. Bien sûr, certains, ça sera pour le marathon. D'autres, eh bien, ça sera pour le sprint, pour en vue d'avoir, eh bien, le trophée. Mes frères et sœurs, pour l'enfant de Dieu, pour le chrétien, c'est vrai qu'il y a là cette aspiration des disciples. Quand cela arrivera-t-il? Dis-nous, toi le Seigneur qui connais les secrets, toi qui sais tout, dis-le-nous. Nous, on veut être au clair, on veut le savoir, afin de ne pas passer à côté. Et frères et sœurs, je crois qu'il y a là quelque chose de très important, c'est que comme pour ces sportifs et comme pour le chrétien, il y a l'amour, ils aiment. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, verset 4, Il est écrit ceci, que l'amour est persévérant, l'amour est endurant, l'amour est patient, et ces trois adjectifs traduisent en français, n'est-ce pas, un seul mot, c'est l'amour absolu du Christ. Il y a là quelque chose d'extraordinaire, c'est que Jésus nous aime. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu m'aime, Dieu t'aime, même si tu n'es pas au top niveau, même si, eh bien, ce matin, tu es fatigué, lassé, peut-être même découragé, ou même ce matin, tu es venu en traînant les pieds, il t'aime. Et ce matin, c'est vrai que son esprit, eh bien, veut te renouveler. Les disciples, eux, certes, voyaient les grandes pierres de ce temple, et Jésus leur dit, eh bien, tout cela va passer. Tout cela, eh bien, un jour, eh bien, sera détruit. Bien sûr, nous connaissons ce qui s'est passé en l'an 63, c'est que le temple a été rasé. Et bien sûr, maintenant, eh bien, sur l'esplanade, il y a la mosquée d'Omar. Le temple de Jérusalem, qui a été construit par Salomon, a été rasé. Et Jésus leur a dit. Et c'est vrai que quand, on pourra voir ça une autre fois, eh bien, la lecture de cela, nous voyons que le Seigneur, eh bien, met des points clairs, très importants, afin que le peuple de Dieu soit toujours au courant. Rien n'est caché à celui qui vit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Dieu, un jour, a dit à Abraham, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» concernant Sodome et Gomorre. Hein? Cacherai-je? Pourtant, Abraham, eh bien, était l'homme qui servait Dieu, aimait Dieu, malgré, eh bien, aussi ses hauts et ses bas. Il a eu peur lorsqu'il s'est présenté devant Pharaon. Et au lieu de dire que Sarah, c'est son épouse, il a dit c'est sa sœur. Hein? Parce qu'il pensait être raccourci. Parce qu'il était belle de figure, etc., etc. Mais Dieu a vu cela. Et c'est vrai que, eh bien, Abraham a dû retourner. Et nous voyons, frères et sœurs, que lorsque on s'écarte du chemin de Dieu, il n'y a plus, eh bien, la présence de Dieu, il n'y a plus le conseil de Dieu, il n'y a plus la direction de Dieu, il n'y a plus la paix. Mais tant que Abraham était, n'est-ce pas, en contact avec ce Dieu qui s'est révélé en « quitte ton pays, ta patrie, ta famille et va dans le pays que je te dirai », nous voyons eh bien qu'Abraham, durant ses pérégrinations, élevait un autel. La présence de Dieu, la communion avec Dieu, le contact avec Dieu, et Dieu pourra dire « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et Dieu va le révéler. Dieu va lui révéler ces choses. Bien sûr, des choses atroces concernant Sodome et Gomorre. Et Abraham va être cet intercesseur. Et Dieu va dire, eh bien, même s'il y a 10, j'arrête. Et nous voyons, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, eh bien, le Seigneur veut aussi encore se révéler à chacun d'entre nous. Où en es-tu? Dans la marche avec le Seigneur, dans la communion avec lui. Es-tu celui qui est apeuré? Es-tu celui qui regarde à droite et à gauche? Ou es-tu celui qui a son écoute? L'amour de Dieu est un amour qui s'instruit d'âge en âge. L'amour de Dieu est un amour invariable. Il t'aime. Et c'est pour cette raison que cet amour, eh bien, veut grandir en toi. Je suis unique. Tu es unique. Tu es irremplaçable. Tu es celui que Dieu a un regard de bonté sur ta vie. Et ça, quand tu réalises, c'est quelque chose de glorieux, de merveilleux. Alors Dieu est-il un marathonien ou un sprinteur? Et je peux m'imaginer que Dieu est un marathonien. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, au fil des siècles, Dieu a toujours, eh bien, marché dans le plan qu'il avait prévu. Alléluia. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul lui-même dira, je cours dans ma carrière, en ayant les regards fixés sur celui qui est le chef et le consommateur de ma foi. Dieu t'a ouvert une carrière. Le jour où tu t'es converti, eh bien, il y a un chemin nouveau qui s'ouvre. Et ce chemin, il veut que tu t'y engages. Il désire, eh bien, que tu aies avec lui un contact jour après jour avec lui. Parce qu'il t'aime et il veut te conduire, non pas dans le désordre, non pas dans les confusions. Parce que quand vous lisez, eh bien, tout ce que le Seigneur leur a dit, hein, Jérusalem, il y aura les faux prophètes, il y aura ceci, il y aura cela. Et nous voyons, frères et sœurs, qu'au fil des siècles, ces choses, eh bien, se sont accumulées de plus en plus. Et dans un des passages, Jésus dira, parce que l'iniquité sera à son terme, l'amour de Dieu se refroidira. L'amour de Dieu. Dieu est toujours le même. Est-ce que mon amour, eh bien, ne s'est pas au fil du temps satiédi? C'est pour cette raison que Jésus dira, l'ange de l'Éternel dira à Jean, à cette église, parce que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné. Parce que tu étais bouillant et tu es devenu tiède. Dieu, lui, ne change pas. Et heureusement qu'il ne change pas, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, parce que s'il changeait, nous serions les plus malheureux des hommes et des femmes de l'humanité. Mais il est le même, alléluia, et ce qu'il a dit, eh bien, cela s'accomplira, parce que sa parole est éternelle. Dieu est éternel. Et ce Dieu éternel veut faire une demeure totale en toi. Alors c'est vrai que le magma doit sauter. C'est vrai que nos personnalités, nos idées, nos sentiments, ce qui fait notre MOI doit, eh bien, mourir. Paul dira lui-même, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quelles sont tes conceptions ce matin? Quelle est ta vision ce matin? C'est vrai qu'au temps de Jésus, il y avait les Romains. Ils étaient sous occupation romaine. Et c'est vrai qu'il y avait, eh bien, des conflits. Mais l'œuvre du Seigneur, ce n'était pas d'entrer dans les conflits, c'était de sauver. Et il pourra dire, mon Père agit, moi j'agis. Je ne fais que ce que je vois de mon Père. Et aujourd'hui, frères et sœurs, les conflits sont des conflits, eh bien, mondiaux. À quelques heures d'ici, ce qui se passe est inimaginable. Mais il y a aussi des conflits familiaux, des conflits, eh bien, entre personnes. Mais le Seigneur est celui qui veut donner la paix. Heureux les artisans de paix. Car il sera appelé fils de Dieu. Mais comment pouvons-nous être un artisan de paix si nous n'avons pas le prince de la paix? C'est pas possible. Il est la paix. Et si tu acceptes Jésus comme Seigneur, comme Sauveur et comme Maître, alors il viendra en toi et il te donnera la paix. La paix qui surpasse toute connaissance et toute intelligence. Il est cette paix. Et dans un monde en confusion, dans un monde en ébullition, dans un monde en fusion, il y a l'Église, il y a l'homme, la femme sauvée. Et frères et sœurs, tu es unique, tu es irremplaçable. Combien de milliards d'années l'amour de Dieu, lui, a toujours été le même. Quelle patience a ce Dieu extraordinaire. Quelle patience. Quel amour. Quelle miséricorde. D'être toujours excusez-moi l'expression, à nos petits soins. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'après, frères et sœurs, la mort vient le jugement. C'est vrai que le pape a été en RDC. Des millions de personnes se sont rassemblées. Mais dans ces millions, combien sont sauvés? Il y a eu une exubérance extraordinaire. Et je me disais, mais à la place de cet homme, s'il y avait des prédicateurs qui annonçaient l'évangile, alléluia, le salut en Jésus-Christ, c'est vrai qu'il a apporté peut-être un beau message concernant tous les conflits qui s'y trouvent. Mais le problème numéro un, c'est qu'il y ait la réconciliation, mais la réconciliation n'est possible qu'au pied de la croix. Oui. La croix reste debout, alléluia. Et ce n'est pas une religion, quelle qu'elle soit, aussi belle soit-elle, qui va réconcilier l'homme avec Dieu. C'est au travers de la croix. Parce qu'à la croix du calvaire, Jésus a tout accompli. Alors mes frères et mes sœurs, l'amour de Dieu, malgré les erreurs, malgré nos erreurs, malgré eh bien tout ce que nous pouvons avoir, qui cause aussi tant de souffrances, ce Dieu nous aime infiniment. Ce Dieu t'aime infiniment, éternellement, pour continuer à venir vers toi sans cesse. Il t'aime infiniment, avec des cordages d'amour, alléluia. Dans Romains chapitre 8, verset 39, nous pouvons lire ceci. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Et ça, c'est une réalité extraordinaire. Alors, bien sûr, l'ennemi essaie de nous dire, ce n'est pas vrai, c'est faux, tu es un pécheur et tu y resteras, tu as tes faiblesses, tu es encore tombé, eh bien, dans tel et dans tel travers. Certes, oui, mais si tu le reconnais, alors, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il nous met les péchés au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. La faculté de Dieu, c'est ne plus s'en souvenir des choses du passé. Amen. Mais nous, frères et sœurs, nous en souvenons. C'est pas vrai? Imaginez un instant. L'exemple de Paul, Saul de Tarse. Saul de Tarse, blasphémateur, meurtrier, cet homme violent, cet homme eh bien, qui ravageait dans les familles, qui emportait famille, hommes, femmes, enfants, etc., les mettait en prison. Ce n'est pas comme les prisons d'aujourd'hui. Il les amenait liés. Cet homme qui avait une haine, et pourtant, il était au pied de Gamaliel. Il a appris la loi pharisaïque, la loi de Dieu, la Torah. Mais il avait une haine contre ces chrétiens. Et alors, bien sûr, avec des lettres, il partait sur le chemin de Damas, en faisant encore d'autres conquêtes. Mais l'amour de Dieu, alléluia, l'a fait tomber de son cheval. L'amour de Dieu veut eh bien pénétrer ton cœur ce matin en te disant eh bien toute la carapace que tu as, peut-être toute la haine, peut-être eh bien tout ce que tu au fil des temps tu as emmagasiné. L'amour de Dieu veut briser cela et te dire je t'aime, Dieu t'aime d'un amour éternel afin que tu vives. Et cet homme a été changé quand il est tombé de son cheval. C'est vrai. Dieu fait des choses extraordinaires. Il est devenu aveugle. Mais Dieu va interpeller un de ses disciples, Ananias, un chrétien. Bien sûr, tout le monde savait qu'il allait venir. Et tout le monde avait peut-être la peur au ventre. Et Dieu va interpeller Ananias. Et Dieu va lui parler. J'aime bien, frères et sœurs, lire. Et je me remets dans ce contexte. Imaginez que Dieu t'interpelle et dit, « Jean, Pierre, Paul, oui, oui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ?» C'est vrai, hein ?« Merci, Seigneur, parce que tu vas m'employer. » Alléluia ! Va dans la maison. Celle qu'on appelle ceci, il y a là un nommé soldat. Ah ! Quoi, Seigneur ? Mais c'est pas possible ! Mais tu sais pas qu'est-ce qu'il fait ? Tu sais pas qu'il est venu avec des lettres pour emmener les chrétiens en prison ? Tu sais pas ? C'est ça, vous lirez. Mais bien sûr que le Seigneur sait. Mais le Seigneur l'a changé comme une crêpe. Parce que je ferai de lui un instrument pour ma gloire. Où ? Mon frère, ma sœur, je crois que dans les temps que nous vivons aujourd'hui, Dieu veut nous étonner, alléluia. Mais Dieu attend que tu puisses te décider à le suivre. Que tu puisses dire, Seigneur, maintenant, eh bien oui, c'est terminé d'être le jouet de l'ennemi, le pantin du diable, le pantin, eh bien, de mon esclavage. C'est terminé, je mets un point final. Ce matin, je veux une délivrance totale et complète. Parce qu'à la croix du calvaire, tu as tout accompli. Et je te bénis pour les victoires que tu veux me donner. Alléluia. Je ne veux pas repartir comme je suis rentré. Mais je veux repartir avec la vie de l'Esprit. Amen. Je veux eh bien que tout ce magma puisse sauter. Et que ça jaillisse de la gloire de Dieu. Alléluia. Le feu de Dieu. Jésus a été livré. Mes frères et sœurs, le tombeau n'a pu le retenir. Il est sorti le troisième jour. Amen. Et ce matin, tout lien, quel qu'il soit, le Seigneur est tout puissant pour te libérer, afin de te renvoyer libre. La vraie liberté en Christ, la vraie liberté se trouve en Christ. Alors ce matin, merci Seigneur, parce que tu m'aimes infiniment. Éphésiens, chapitre 3, verset 18, nous dit ceci. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et bien sûr, il est question, quoi, de l'amour de Dieu. Connais-tu la hauteur, profondeur, largeur de l'amour de Dieu ? Non ? Tu ne peux que plonger dans cet amour. Souvent, je prends cette image, l'amour de Dieu, c'est comme l'étendue de la mer. Quand vous êtes au bord de la mer, vous voyez jusqu'à l'horizon, hein ? Alors, bien sûr, vous rentrez. Et à un moment, il faut nager. Et vous dites, je suis dans la mer. Mais vous n'êtes que peut-être à quelques mètres du rivage de la mer. Il faut y aller plus loin. Vous ne pouvez pas tout englober. L'amour de Dieu, c'est cela. Et le Seigneur veut, eh bien, que tu ailles plus loin. Que tu ailles plus loin. Souvent, c'est vrai, Seigneur, je perds pied. Ouh, c'est pas nager, Seigneur. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de noyade. Hein? C'est vrai que Pierre a connu. Hein? Mais il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur l'a sauvé. Frères et sœurs, le Seigneur ne se laisse pas abattre par nos obstacles. Il ne se laisse pas abattre par les épreuves qui peuvent être là, ou même les tempêtes qui sont là. Et même, souvent, par les erreurs de parcours que nous avons faites. C'est vrai que souvent, nous faisons des erreurs. Mais le Seigneur est là pour corriger nos erreurs. Il est là pour effacer. Non pas pour mettre au rouge, mais que le sang de Jésus efface, comme sur un tableau, toutes nos erreurs. Le diable, lui, nous montre nos erreurs, mais le sang de Jésus efface toutes nos erreurs. Il n'y a plus rien. Toutes tes erreurs. Il est là, et il t'appelle. Il veut t'accueillir tout à nouveau pour que tu puisses repartir tout à nouveau. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement dans l'évangile de Matthieu et la fin du monde. Nous voyons, frères et sœurs, la progression. Dis-nous. Mais maintenant, nous, on veut savoir plus encore. Nous, on désire davantage, et frères et sœurs. Souvent, nous avons envie d'abandonner. Hein? Mais le Seigneur, lui, nous invite à persévérer. Parce que la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, aide-moi à persévérer. Seigneur, merci parce que, comme eh bien, ce jeune homme que je vois courir pour un marathon ou pour un sprint, il ne fait pas seulement la veille, mais il va le faire eh bien, périodiquement, régulièrement, afin qu'il puisse, quand le jour arrivera, être prêt. Et c'est vrai qu'un marathon, il y a des montées, il y a des descentes, il y a des montées, il y a des plats, et souvent, c'est vrai qu'il y a de la boue. Et souvent, c'est vrai que, pouf, on s'allonge. Mais qu'est-ce qu'il fait, le marathonien? Il se relève et il repart. Alléluia! Alors, mon frère, ma sœur, où en es-tu ce matin? Es-tu peut-être dans la boue? Mais le Seigneur est celui qui veut te relever, afin que tu puisses courir davantage et plus loin, même quand le chemin est trop difficile, même quand les obstacles sont trop grands, même quand tes ennemis sont trop nombreux ou même trop forts, même quand la justice n'arrive pas, même quand la douleur reste, même quand le mal s'acharne contre toi, souviens-toi, comme l'apôtre Paul dira à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, alléluia, souviens-toi de lui, souviens-toi que son amour est un amour invariable. Et son amour, eh bien, va te mener dans cette persévérance. Parce que Jésus est persévérant. Amen. Jésus n'a pas laissé tomber ses disciples. Hein. Faites une analyse de chacune de ces personnes. Chacun, il avait son caractère. Hein. Est-ce que vous l'aurez choisi? Jésus est Dieu. Il connaît chacun des disciples, leur caractère, leur penchant, leur faiblesse, leur bonté aussi. Jean, c'est vrai, c'était celui qui s'est couché sur la poitrine du Seigneur Jésus. Et Pierre était celui qui, bien sûr, il était patron pêcheur, il avait son entreprise, il fallait que ça marche, il fallait eh bien que, au retour de la pêche, il puisse avoir de l'argent pour eh bien, nourrir sa famille et aussi eh bien, donner aux ouvriers, c'est vrai. Il avait un boulot, un travail, une mission, et c'est vrai qu'il s'est formé. Et vous savez que les loups de mer, les pêcheurs, sont des hommes très durs. Hein. J'en ai connu lorsque j'étais pasteur à Boulogne-sur-Mer, on allait sur le rivage et aussi sur et quand ils rentraient avec leur bateau, leur chalutier, rempli de poissons, c'était des gaillards. Hein. Ouais. Bon, après, bien sûr, il y a les ouvriers qui sont là, mais le patron pêcheur, il rentre, il sait. Et quand il monte, eh bien, tous ces cageots de poissons qui frémissent encore, il ne peut être que content. Mais quand il rentrait bredouille, il y a le mazout à payer, etc. Et, frères et sœurs, Pierre a connu cela. Il a connu un moment, eh bien, ce problème. Et lui-même dira à Jésus, mais on a travaillé toute la nuit. Le fiasco total. Et on n'a rien pris, même pas une épinoche. Rien, rien, rien. Pourtant, il savait où se trouvaient les bancs de poissons. Pierre n'était pas un novice. Il connaissait. Et là, c'est la défaite, c'est le fiasco total. Et il rentre bredouille. Et Jésus est sur le rivage. Le Seigneur toujours arrive, non pas en retard, mais au point. 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 où il va nous rencontrer. Toujours. Toujours. Et Jésus est sur le rivage. Et il va dire quoi ? Enfant, n'avez-vous rien à pêcher ? N'avez-vous rien à manger ? C'est comme si le Seigneur mettait encore le doigt sur la plaie. Hein. Oh, oh, oh. Ouh, le Seigneur, ben, t'as vu, hein, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Hein. Peut-être la Pierre a baissé la tête. Hein. Dans la honte, dans la confusion, dans la tristesse. Et tous ceux qui étaient aussi avec lui. Est-ce que le Seigneur leur a fait un reproche ? Vous êtes que des bons à rien. Vous ne savez pas pêcher. Hein? Même pas une épinoche. Tu n'as pas su, mon frère, ma sœur, prier. Souvent, c'est vrai que j'entends, moi, des frères, des sœurs, ancrés dans la parole de Dieu vis-à-vis peut-être des jeunes gens qui viennent à l'Évangile. Mais mon frère, ma sœur, tu n'as pas assez prié. Il y a peut-être quelque chose en toi qui n'est pas encore clean. Il faut que tu changes. Au lieu de dire, eh bien, on va prier avec toi. On va t'aider. C'est vrai que pour Pierre, ce fut la déception. Et combien de personnes, j'ai entendu, pasteur, il n'y a pas d'amour dans vos églises. Pourquoi ? Mais quand vous recevez de telles paroles, au lieu de dire, mon frère, ma soeur, monsieur ou madame, on est là pour vous aider. Il y a une parole qui est incisive. Seigneur, donne-moi les paroles d'amour vis-à-vis de celui-ci ou de celle-là. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire ? Hein ? Allez et pêchez, lancez le filet du côté droit. Le Seigneur, lui, va prendre les rênes, va prendre la direction. Il va prendre l'initiative. Pierre aurait pu dire, mais Seigneur, non, laisse tomber, on verra ça demain. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Sur ta parole, nous jetterons le filet. Ça veut dire, frères et sœurs, que quand Jésus leur a dit, eh bien, jetez le filet du côté droit, bien sûr, il a entendu. Pierre va dire, on a péché, négatif. Mais, il va dire, sur ta parole, et cela va le refortifier, le ressourcer. Et sur la parole de Dieu, les forces physiques. Parce que, frères et sœurs, prendre un filet mouillé, c'est lourd, hein ? Bien sûr, aujourd'hui, on a tout le matériel nécessaire pour envoyer les filets, les rouleaux, etc. Vous appuyez sur un bouton, ça part, et ça envoie, et puis ça repart. Hein ? Mais là, il faut les jeter. Frères et sœurs, ce leur a donné physiquement la force de pouvoir jeter le filet. Dieu agit, frères et sœurs, corps, âme et esprit. Oui. Vous savez que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et c'est vrai que dans notre corps, bien sûr, c'est l'enveloppe. Et Seigneur, eh bien, la Bible dit que je dois garder mon corps saint, pur, irrépréhensible. C'est vrai que l'esprit et l'âme sont les deux choses liées. Mais mon corps a besoin aussi de ces choses-là. Et frères et sœurs, dans ce corps, la force du Saint-Esprit est entrée, et même s'ils n'avaient plus la force de pouvoir encore jeter, le Saint-Esprit leur a donné cette énergie de pouvoir encore jeter le filet et d'attendre je ne sais pas combien de temps pour après le tirer. Parce qu'encore, il faut le tirer. Mais la Bible nous dit quoi ? C'est qu'il était tellement lourd, c'est qu'ils ont dû faire appel aux autres qui étaient là en train de réparer ou même qui étaient près d'eux. La bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas minus, c'est l'abondance. Parce que quand Dieu bénit, abondamment. Quand Dieu te bénit, il te bénit abondamment. Alléluia. Alors c'est vrai que souvent nous, mon MOI, eh bien, met des restrictions. Mais Dieu veut nous bénir au-delà de tout ce que nous pouvons penser et concevoir. Parce que tout appartient à Dieu. Imaginez que Dieu va dire, maintenant, l'air que tu respires, tu vas me le payer. Ah ! Oh, 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 oh. Oui, c'est vrai qu'il y a un ministre, ça c'est entre guillemets, hein, a voulu, pour ceux qui ont des vaches, les cultivateurs, de mettre un appareil parce que, eh bien, tout ce qui se passe, les gaz qu'ils font ressortir sont mauvais pour la couche. Le méthane. Alors tous les cultivateurs, maintenant aux vaches, ils vont mettre des appareils. Bon, je ne sais pas si c'est passé, mais regardez, frères et sœurs, la folie. Nous voyons, frères et sœurs, comment le Seigneur agit. L'amour est persévérant. Dieu persévère vis-à-vis de toi. Il ne se laisse pas décontenancer. Alors, souvenons-nous de celui qui un jour est venu à notre rencontre. La Bible dit « persévérer dans l'amour ». Alors, la persévérance, ce n'est pas de lâcher prise, mais d'être toujours attaché à lui, greffé à lui. C'est se sentir que, Seigneur, je vaux quelque chose. Je suis une nouvelle créature, une nouvelle création. Et tes regards sont fixés sur moi parce que je fais partie de ta famille. L'amour du Père. Je veux me préparer à chaque jour, le connaître davantage, aspirer, comme l'apôtre Paul dira, aux dons spirituels et encore à plus, aspirer, désirer. Contemplons, frères et sœurs, par la foi, ce mystère de cet amour extraordinaire. Et Galates chapitre 6, verset 9 nous dit ceci, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Seigneur, pardonne peut-être mes relâchements. Pardonne, Seigneur, peut-être mes arrêts, mon souffle au cœur, mais renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et l'apôtre Paul dira ceci, « Oublie ce qui est en arrière. » En Philippiens chapitre 3, verset 14, « Je cours vers le but. » Oubliant ce qui est en arrière. Frères et sœurs, Jésus va faire l'étalage de tout ce qui va arriver. Il ne va pas parler des pierres, etc. Mais il va dire, voilà ce qui va arriver. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but qui m'est réservé. C'est vrai que Paul dira aux Galates, au chapitre 5, verset 7, « Vous couriez bien !» Qui vous a arrêté? Alors que rien, frères et sœurs, mon frère, ma sœur, ne t'arrête dans la carrière que Christ a ouverte. Rien, mais avance. Alors c'est vrai que l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 25, Dieu dira, « J'efface tes transgressions par l'amour pour moi. » J'efface tes transgressions par l'amour pour moi, parce que je t'aime et parce que tu es une de mes créatures. Alors je ne suis pas là pour te condamner, mais pour te pardonner, parce que Christ a porté la croix du calvaire, ta condamnation. Alléluia! Et si tu acceptes Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia! Oui, dans les Cantiques, au chapitre 2, verset 6, l'amour est fort comme la mort. Qui peut arrêter l'amour? Et Dieu dira aussi
Dans Ésaïe chapitre 54, verset 10, « Mon amour ne s'éloignera point de toi. » Mon amour. Et dans Jérémie, vous connaissez le prophète Jérémie, c'était pas facile pour lui de son temps. Dieu lui dira, « Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. » Dans Romains chapitre 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que Dieu prouve son amour. Dieu a prouvé. Seigneur,